Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce podcast en mode étiquette. Et moi je m'appelle Jamal.
Moi c'est Marie.
Moi c'est Lola.
Et moi c'est Adrien.
Nous sommes des étudiants de l'université Bordeaux-Montaigne et durant ce podcast on va parler sur le slow et la fast fashion.
Ok, bah déjà aujourd'hui on accueille Adrien, donc il y a une nouvelle personne dans ce podcast. Peut-être que tu veux te présenter un petit peu, enfin du moins juste vite fait dire un peu ce que tu fais ou...
Oui, carrément. Du coup, je m'appelle Adrien Vanier, je suis étudiant en master d'histoire à Bordeaux-Montaigne. Le parcours transition, innovation et environnement, donc ça a un sens avec ce qu'on fait. Même si bon, moi mon sujet de recherche est sur le nucléaire, qui n'a aucun rapport. Mais moi j'ai toujours été passionné par l'industrie textile, l'industrie de la mode et surtout la haute couture. Et depuis quelques temps, depuis à peu près je pense 10 ans, maintenant j'attache à m'habiller que de seconde main et avec des pièces de collection, donc souvent des habits de haute couture que j'arrive à avoir entre 2 et 3 euros, ce qui est un privilège quoi. Et voilà, donc j'ai créé l'année dernière avec des amis une association sur Montaigne qui s'appelle Coup de pouce étudiant et où on organise une friperie mensuelle au sein de la MDE, donc la maison des étudiants. Et on organise un défilé de mode le 3 avril, c'est le 6, c'est autre chose, le mercredi 3 avril entre midi et 2 pour justement mettre en avant une mode entre guillemets de luxe de seconde main.
Ok, trop chouette.
Ok, et du coup, aujourd'hui, on va parler surtout de la fast fashion parce que c'est un sujet qui, on va dire, pop pas mal en ce moment et bon, on a tous envie un peu de savoir comment ça se passe. Mais on sait pas trop aussi comment ça fonctionne. Donc, on a bien vu dans le dernier épisode la différence entre les définitions. Donc, est-ce que vous connaissez un peu les impacts, vous, entre vous, ou alors les sujets sur la fast fashion qu'on pourrait du coup là un peu ressortir?
Vas-y Adrien, si t'as...
Aujourd'hui, moi quand j'anime des conférences ou que je vois des personnes par le biais des friperies, moi ce que je trouve important c'est de se dire qu'aujourd'hui tout le monde au moins a une fois acheté un habit en fast fashion. Bon déjà quand on définit ce que c'est on comprend mieux, quand on ne sait pas trop on se dit qu'il y a des marques d'habits qui ne sont pas forcément des marques de fast fashion alors que si. Pour moi quand on fait plus de 6 collections par an c'est qu'on fait de la fast fashion et aujourd'hui la majorité des entreprises le font et tout le monde l'a fait, surtout à l'adolescence parce que on n'a pas trop d'argent donc on ne sait pas où s'habiller donc on va facilement vers ces marques là et aujourd'hui après quand on évolue un peu, qu'on commence à avoir un emploi on se dit effectivement on peut se tourner vers des trucs un peu plus quali voir comme ça donc il y a ça aussi qui est important aujourd'hui.
On est aussi surtout moins influençable je trouve. Parce que comme tu l'as dit, c'est vrai que moi quand j'étais ado aussi, je me faisais un peu influencer par le truc de « Ouais, il y a ça qui sort, du coup tout le monde le porte, j'ai aussi envie de le porter. » Mais j'ai pas ça dans mon armoire, il me le faut absolument. En fait, on se crée des besoins alors qu'en fait, on a tout ce qu'il faut et on peut jouer avec plusieurs matières qu'on a déjà dans notre armoire. Et c'est vrai que ça, je pense qu'on a tous été touchés par ça, quoi.
Avoir la dernière pièce qui est sortie. Parce que les réseaux sociaux, de toute façon, ça nous influence vachement. Donc forcément, ça alimente ce besoin. Et puis du coup, les marques répondent en alimentant. Je sais plus le chiffre exact, mais je crois qu'il y a des marques qui sortent des collections presque toutes les semaines.
C'est ça.
Tous les deux jours. Enfin, c'est quand même assez aberrant. Mais c'est vrai que quand on ne sait pas, malheureusement, tu rentres dans l'engrenage et tu te fais un peu avoir. Quoi.
Puis tu te dis, il n'y a que moi, entre guillemets, alors que non, il n'y a pas que...
Non, non, ouais.
Il n'y a pas que moi, non.
Surtout, moi, j'ai jamais senti ce besoin de m'habiller genre en fast fashion parce que je suis grandi dans une famille, surtout mon père à l'époque, il faisait de la vente et l'achat des vêtements seconde main. Et du coup, dès que j'étais petit, je m'habillais comme ça jusqu'à présent. Mais là, j'avoue, je m'habille souvent en fast fashion, mais pas autant parce que j'ai déjà une grosse partie de ma vie qui était en fripe. Donc voilà. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu de l'incident qui s'était passé à Bangladesh?
Ouais. L'incident du Rana Plaza. en 2013. Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que la fast fashion, elle a des gros impacts au niveau des ouvriers, du travail ouvrier, mais également de l'environnement. C'est vraiment un gros problème au niveau social. Avec du coup le Rana Plaza, c'était un immeuble au Bangladesh qui... il y avait pas mal de marques qui produisaient des vêtements, et en fait comme c'était empilé, c'était des conditions de travail mais limite de l'esclavage, avec vraiment peu de rémunération dans des conditions extrêmement dangereuses. Et en 2013, en fait, l'immeuble s'est carrément effondré. Je sais plus exactement le nombre, vous savez le nombre oui. exact de...
Je crois qu'il y a eu entre 1100 et 1300 ouais, personnes qui sont mortes.
Voilà, qui sont mortes du coup dans cette... Ouais, ça a fait un gros gros bruit. Je sais parce qu'il y a France Culture qui a sorti un podcast hyper intéressant dessus.
Oui.
Et du coup, c'est vrai que ça montre bien du coup vraiment les dangers de la fast fashion du coup sur ce côté-là, parce qu'en fait, on se rend pas compte que quand on achète des vêtements, derrière, il y a des gens qui le produisent, et il y en a certains, c'est dans des conditions, mais on n'imagine même pas, en fait.
C'est vrai qu'on ne pense pas à l'impact social qu'il y a derrière aussi.
On a ce côté, en fait, complètement déconnecté, et moi, c'est ce que je trouve navrant, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le « c'est pas chez nous, donc on s'en fiche ». C'est clairement ça. Enfin, moi, je vois, je cherchais justement le nom de l'industrie, mais je ne la retrouve pas. En Inde, oui, pareil, il y a plein de marques, notamment françaises et internationales, qui produisent dans cette usine, et en fait le groupe rejette l'eau dans la rivière, et évidemment qui boit la rivière? Les gens qui habitent autour. Et tout le monde s'en fiche, et on continue de produire et d'acheter, mais parce qu'on se dit bon bah, on le voit pas, nous on n'est pas là-bas. Donc mais il y a ça avec plein de choses hein, dans le monde hein.
C'est vrai qu'on est un peu égoïste quand même sur certains points. C'est surtout que quand on voit les prix qui sont cassés, on est censé se dire que c'est mauvais parce que derrière les gens sont mal payés ou exploités. Et on pense pas à ça, donc c'est vrai que voir des trucs à 5, 10 euros, c'est pas forcément bon quoi.
Après, sur ton exemple sur, sur l'eau qui est rejetée, il y avait le documentaire Everblue, je sais pas si tu l'as vu.
Oui, eh ben, je pense que c'est...
Voilà,
je pense que c'est...
c'est un documentaire qui parle du coup de toutes ces eaux usées et teintées qui sont rejetées dans des lacs et dans des eaux. Et du coup, il y a quelqu'un c'était un scientifique, je crois, qui a fait un documentaire en Inde, en Bangladesh, au Pakistan. Du coup, hyper intéressant, je pense. Allez-y, le voir. C'est super intéressant. Mais après, on s'en rend pas compte, je pense aussi. Enfin, si t'es pas sensibilisé à ce qui se passe derrière, je pense que quand t'achètes ton vêtement, t'as pas la première chose à te dire. Ah, bah, combien les ouvriers ils vont recevoir? Comment le vêtement il a été conçu aussi? Du coup, c'est pour ça, en fait, si t'es pas déjà sensibilisé un peu à la cause, c'est hyper compliqué, en fait, quand tu vas acheter. Et surtout aussi, quand t'as pas les moyens, malheureusement, en fait, t'achètes, quoi, parce que t'as besoin d'acheter, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a ce problème-là aussi. Hein.
Puis même, rien que la texture, enfin, moi, je vois quand... maintenant, je vais avec certaines personnes dans des boutiques de fast fashion juste pour voir, en fait, comment ça fonctionne et que voir, en fait, ça change toutes les semaines. Et maintenant que j'achète dans des associations ou dans des points de vente de seconde main, des pièces qui sont, entre guillemets, du prêt-à-porter haut de gamme, quand tu as ça à 2 euros, tu touches, tu vois la qualité de la laine, et quand tu vas ensuite dans des marques de fast fashion, tu te dis waouh, ah oui, non, mais c'est pas. Et je me dis en fait, à côté d'un truc de fast fashion à 20 balles et d'une pièce à 2 euros qui date des années 70, qui a déjà été portée peut-être par 3 personnes, qui est encore nickel et qui peut porter encore, enfin, pour moi, il y a une évidence.
Ça, c'est juste une toute petite partie d'impact au fait de fast fashion. Enfin, je sais pas, est-ce que vous savez que la fast fashion est responsable de 10% des émissions de CO2 selon le FAO. Le FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et qu'ils ont dit que voilà, la fast fashion, c'est 10% pour cette industrie, c'est énorme quand même.
Ouais. Oui, surtout en termes d'eau, parce qu'en fait, ça produit beaucoup d'eau. Et bon, aujourd'hui, il y a des entreprises qui justement produisent des textiles à base de matériaux recyclés. Donc, je crois qu'il y a c'est un mot que vous trouverez bizarre sur les étiquettes. Et en fait, c'est fabriqué à base de cellulose de bois. Donc bon, c'est entre guillemets renouvelable. Et justement, ces entreprises, elles aspirent à garder des circuits d'eau fermés pour éviter que ça se disperse. Bon, ça toujours, c'est dans des pays évolués. Il y a notamment aux Pays-Bas, avec toutes les marques qui se développent aux Pays-Bas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup la problématique de l'eau et la problématique sociale. On se souvient encore aujourd'hui, puis on en parle davantage des Ouïghours en Chine, où ben, notamment le gouvernement chinois dit que c'est faux, et certains politiques français disent aussi que ça n'existe pas, sauf qu'il y a des marques françaises qui sont incluses dedans, et moi je me dis que quand je vois des gens à Bordeaux, aller dans ces boutiques, acheter en se disant, bah tiens, c'est du luxe. Oui, non, mais c'est fait par des pauvres personnes qui sont pas payées, qui sont exploitées dans des pays entre guillemets en voie de développement. Et je me dis, mais enfin, ces marques-là se le cachent bien pour justement continuer de prospérer. C'est dommage.
Ouais, puis si t'es pas au courant que ces marques-là travaillent avec ça, malheureusement, en fait, tu te fais vite avoir. Donc en fait, t'as envie de bien faire, tu vas acheter quelque chose et en fait, tu te rends compte après que ben. En fait, c'était produit par les Ouïghours, donc c'est vrai que c'est hyper malsain aussi pour les consommateurs. Et puis surtout aussi, cette dynamique, bon, c'est, du coup, c'est un peu autre chose, mais de greenwashing, parce qu'on parle beaucoup de il faut faire hyper attention, et maintenant, comme tout ce qui est éco-responsable, parce qu'on sait que la planète est extrêmement en danger, et du coup, la jeunesse se mobilise vachement pour ça, il y a énormément de marques qui surfent dessus, et par exemple, il y a pas mal de marques, juste parce qu'il y a une étiquette verte, ou alors il y a la petite feuille et tout, en fait, ça te dit, ah non, mais attention, c'est super cool, en fait, et alors que, non, c'est pas du tout ça, c'est clairement du greenwashing. Ça aussi, en fait, tu tombes vite dans des associations de couleurs et d'idées, et tu te dis, ah bah super, j'achète ça, c'est super bien, et en fait, tu te rends compte que non, encore une fois, ça nous ment. Donc c'est vrai, c'est extrêmement compliqué quand t'as envie de bien faire et qu'en fait tu te fais avoir par toutes ces trucs de communication et tu te dis bon qu'est-ce que je fais quoi.
Ouais, c'est comme les histoires de coton bio, enfin moi ça me fait plutôt rire. Parce que bon, faut savoir que le bio en France s'est produit d'une certaine façon, à l'Europe c'est produit d'une façon encore différente, et internationalement c'est produit complètement différent, c'est comme les légumes. Quand tu prends des tomates qui viennent du Maroc bio, entre guillemets, t'as des reportages très intéressants qui te montrent que là-bas ils utilisent des pesticides qui ne sont pas interdits, et en fait le coton c'est pareil, quand tu vois du coton, faut voir d'où il vient, et quand tu vois qu'il vient d'Amérique latine ou par exemple de Chine ou d'autres pays, bah, tu te dis que peut-être que là-bas, ce n'est pas la même notion du bio, donc le coton bio veut rien dire. Et ça, ils se disent, oh, bah, c'est super, c'est une étiquette verte, c'est génial. Bah non, c'est...
Et puis pour, en plus, pour revenir sur les quantités d'eau, le coton, ça demande une quantité d'eau, mais astronomique. C'est, du coup, par exemple, par rapport au jean, je crois que c'était 7000 litres d'eau pour faire un seul jean. Je sais pas si on s'en rend compte à quel point ça peut être... On avait dit déjà,
c'était,
par rapport au foyer.
C'était l'équivalent, enfin en gros, pour donner une idée d'échelle, une personne consomme 100 litres d'eau par jour.
Dans les différents
usages. Dans les différents usages, la machine à laver, lavage de dents, mais voilà, on a essayé de... Enfin, dans les études, ils ont essayé de faire comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'une personne donc, utilise 100 litres d'eau, et là, un jean, c'est 7000 par jour. Ça veut dire qu'une personne à l'année va utiliser moins d'eau qu'un jean. Enfin, je trouve ça fou, en vrai.
Surtout, en ce moment, avec les gros problèmes d'eau qui apparaissent... un peu partout là dans les infos, c'est vrai qu'on se dit mais waouh, vraiment c'est impressionnant. Hein.
Il y a deux agricultures qui coûtent très cher en eau, c'est le coton et le maïs. Donc bon, le maïs on a un peu arrêté, même si on le fait encore, mais ce qui est normal pour les animaux et tout. Mais le coton, bon ben aujourd'hui en fait quasiment tout est en coton, enfin quand on regarde, sauf bon les manteaux et tout ça, c'est plutôt de la laine ou des matériaux maintenant différents. Mais t-shirts, chemises, pantalons, c'est souvent que de la laine, hein. que du coton pardon.
Non, mais ouais, ça c'est sûr. C'est bon. Après, il y a le site WeDressFair, je sais pas si tu connais.
Ça me dit quelque chose, oui.
Qui est super cool parce qu'il recense toutes les matières, éco-responsables ou non. Et du coup, il parle en fait de... En gros, il a fait un petit guide par rapport à savoir si je prends un vêtement dans cette matière-là, est-ce que c'est éco-responsable ou non. Et du coup, c'est hyper cool si t'as envie de te renseigner un peu sur les vêtements avant et de voir un peu. Mais bon, après, il y a aussi les problèmes d'étiquette, parce que même si t'as envie de te renseigner sur la composition du vêtement, en fait, t'as pas tout le temps la composition des matières vraiment du vêtement. Donc, ça aussi, ça reste un problème. Mais bon,
oui, voilà. Mais c'est comme la provenance. Il y en a certains qui ne le mettent pas. Enfin, quand tout le monde, il y en a qui le mettent. La dernière fois, je suis allé chez une marque de fast fashion haut de gamme, entre guillemets. On m'a dit que c'était comme ça. Et bon, pour moi, c'est la fast fashion quand même. Et justement, eux, à aucun moment, enfin, je sais où c'est produit personnellement, mais à aucun moment sur leur étiquette, c'est marqué. Et là, je me dis pareil, enfin, c'est...
Donc, il n'y a pas écrit Made in...
Non, okay, alors que c'est chinois. Mais il n'y a pas marqué Made in China. Ben, c'est pas exprès, justement, c'est pour...
Ouais, mais je pensais qu'il y avait des... Enfin, que c'était réglementé, peut-être, mais du coup, non.
Ou alors, c'est bien caché, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé sur l'étiquette intérieure, ni sur l'étiquette de prix, Made in China. Donc...
Ouais, donc on essaye de cacher la vérité, quoi.
C'est ça.
Ce qui rend d'autant plus les choses difficiles, je pense, du coup, pour bien consommer et tout ça.
Bon bah écoutez, merci, c'était hyper intéressant ce point de vue sur l'impact de la fast fashion. Une première introduction, donc nous on vous pousse à vous renseigner sur pas mal de documentaires et de podcasts pour, voilà, pour alimenter toutes ces choses qu'on a fait. Donc merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, on va parler de la slow fashion du coup et des solutions, parce que c'est bien mignon de balancer tous ces impacts néfastes, mais s'il n'y a pas de solution, ça peut être un peu anxiogène pour vous. Donc merci de nous avoir écoutés et puis à bientôt.